RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Commencez par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo apprécie le pesantrenpreneur. L'Indonésie et le Brésil renforcent leur coopération dans l'agriculture. Le ministre brésilien des Affaires étrangères accepte un accord sans visa pour l'Indonésie. La centrale électrique à vapeur Java 2 est destinée à fonctionner dans un avenir proche. Le développement du poisson local indonésien doit être optimisé. Mahathir élu, la coopération entre l'Indonésie et la Malaisie s'améliore. Sept pays de l'OKI discutent du système de rééducation de la pauvreté. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo apprécie l'Association indonésienne des jeunes entrepreneurs, ou HIPMI, de la région de Java East sur l'initiative de pesantrenpreneurs à Pasuruan, Java East. Lorsque son ouverture à Pondok Pesantren Bait al-Hikmah Pasuruan samedi, le président a déclaré que cette initiative pouvait stimuler l'économie de la nation par des jeunes entrepreneurs. Le pesantrenpreneur est l'amélioration de l'économie sur la base de l'internat ou le pesantren. À la mise en œuvre, le pesantrenpreneur, en forme de détail, fait la marchandisation des produits fabriqués par les étudiants et les produits des micro, petites et moyennes entreprises nommées UMART. Le président encourage cette initiative pour se propager au pesantren en Indonésie.
Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada HIPMI.
Je voudrais exprimer ma haute appréciation à HIPMI, en particulier HIPMI de Java East qui a été commencé dans l'internat avec UMART, avec le pesantrenpreneur. C'est le programme afin d'améliorer l'économie qui est commencé de nos jeunes entrepreneurs. Nous devons toujours encourager et motiver cette idée, de sorte qu'il n'y a pas seulement 10, mais tous les internats qui sont près de 30 000 possèdent les UMART. Je vois dans certains internats qu'il y a déjà UMART et UMART, ce qui doivent être développés. Cependant, le président de HIPMI de Java East, M. Mufti Anam, a expliqué que l'initiative de pesantrenpreneur dispersée dans 10 internats à Java East, avec le potentiel de 30 000 d'internats en Indonésie, avec 5 millions d'étudiants et des milliers d'anciens élèves. Le Mufti Anam croit que l'internat est l'entité puissante pour les piliers de l'éducation de la communauté ainsi que la possibilité d'encourager l'économie des gens. Il a dit que ce programme a pour objectif de susciter l'économie des jeunes dans le village reculé sur la base d'Internet. Mufti Anam visant la création de 1000 umat à Java Est. L'Indonésie et le Brésil renforcent la coopération dans l'agriculture. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Madame Retno LP Marsudi, et le ministre brésilien des Affaires étrangères, Aloysio Nunes Ferreira, lors d'une réunion bilatérale à Bogor vendredi, ont déclaré qu'ils renforceraient la coopération dans l'agriculture, y compris le palmier à huile. Il va également faciliter l'entrée des marchandises d'importation et d'exportation de l'Indonésie au Brésil ou vice-versa. Nous discutons également d'autres domaines de coopération qui peuvent être améliorés, entre autres l'agriculture. Nous discutons également de la question du palmier à huile. Et nous discutons aussi des efforts pour faciliter l'entrée de nos produits de l'Indonésie au Brésil et du Brésil à l'Indonésie. Afin de permettre aux entrepreneurs indonésiens d'étendre leur marché de commerce et d'investissement au Brésil, la ministre Retno Marsudi a suggéré que le Brésil traduise les formulaires commerciaux en anglais. Les formulaires d'importation ne sont disponibles en portugais, ce qui rend difficile pour les entrepreneurs indonésiens de travailler avec des entrepreneurs au Brésil. Récemment, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno LP Marsudi, et son homologue du Brésil, Aloysio Nunes Ferreira, ont signé trois documents de l'accord entre les deux pays.
Pada hari ini, tadi kita baru saja menyaksikan tiga penandatanganan.
Ce jour-là, nous venions d'assister à la signature de trois accords sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et officiels, l'échange d'un mémorandum sur l'exemption de visa pour les titulaires passeports réguliers et l'accord de coopération technique. Cela a été déclaré par la ministre Retno LP Marsudi après la réunion bilatérale entre les deux pays à l'hôtel Novotel Bogor. Selon Mme Retno Marsudi, les trois accords peuvent renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et le Brésil et il n'y aura pas de barrière à l'échange de visites entre les communautés, les fonctionnaires et les autres. Avec une visite intensive, j'espère que les relations entre les deux pays deviendront plus avancées, a déclaré Mme Retno Marsudi. PT Perusahaan Listrik Negara ou PLN va bientôt achever la construction de la centrale électrique à vapeur Java 2. Elle se trouve dans la zone de PT Indonesia Power à Tanjung Priok, Jakarta. Cette centrale électrique commencera les opérations commerciales le 10 juin et soutenir l'approvisionnement en énergie électrique à Java et à Bali, notamment Jakarta. Il a été dit par le directeur des affaires régionales de Java West de PT PLN, M. W.S. Haryanto, à Jakarta récemment. Selon M. Haryanto, le projet de la centrale électrique à vapeur Java 2 produira 800 MW. Le contrat de développement du projet est en vigueur depuis le 23 novembre 2016 avec une valeur de 6,1 trillion rupiah. Le projet de la centrale électrique est une manifestation du programme de développement d'infrastructures électriques de 35 000 MW avec une nouvelle ligne de transmission le long 46 000 circuits kilomètres. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie possède un grand potentiel pour augmenter les exportations de poissons vers divers pays. Par conséquent, il a besoin d'un développement durable et d'un soutien politique du gouvernement de l'Indonésie pour un développement optimal, comme l'a déclaré le président de la Société Ichthyologie Indonésie, M. Sulistiono, en marge du 10e séminaire national sur le poisson et le 5e congrès de la Société Indonésienne Ichthyologie, ou MII, Keo Liu au Centre de l'Institut de Recherche Biologique Indonésien des Sciences à Cibinong Bogor, Java West récemment.
Jadi ingin sekali membuat kerangka pemikiran untuk pengembangan perikanan, terutama berkaitan dengan
On veut créer le cadre de pensée pour le développement de la pêche, notamment lié à la conservation, la transformation et l'utilisation, le traitement et l'économie. Nos ressources sont nombreuses, mais nous ne pouvons pas les utiliser. Nous devrions développer du poisson local, mais avoir une valeur internationale, comme par exemple les poissons de betutu. Ils sont les poissons locaux, peuvent être exportés vers Singapour. Le prix est très élevé. D'autres poissons d'ornement et les poissons cardinaux qui existent seulement en Indonésie peuvent être développés et peuvent être exportés avec le prix trop cher. Nous utilisons du poisson local pour obtenir les devises étrangères. Le recteur de l'Institut d'agriculture de Bogor, M. Arif Satria, a déclaré qu'avec la biodiversité de poissons, l'Indonésie devrait observer un certain nombre de poissons pour ne pas disparaître à travers la conservation et la culture durable. L'élection de Mahathir Mohamad comme 7e Premier ministre de la Malaisie à travers la 14e élection générale signifie la coopération de la Malaisie et de l'Indonésie à l'avenir s'améliorera. C'est ce qu'a déclaré le professeur de politique internationale de l'Université Pelita Harapan, M. Alexios Jemadu, à Radio République Indonésia à Jakarta samedi. Selon lui, actuellement, l'Indonésie et la Malaisie ont besoin les uns des autres pour faire face à la domination des pays occidentaux et chinois. Alexios Jemadu souhaite que Mahathir puisse prêter attention aux travailleurs indonésiens qui sont en Malaisie parce que Mahathir avait des bonnes relations avec les dirigeants en Indonésie. Il espère aussi que Mahathir peut établir une relation favorable avec l'Indonésie. 7 pays membres de l'Organisation de la coopération islamique ont discuté de la protection sociale et de la réduction de la pauvreté dans les pays islamiques lors d'une conférence à l'Université de Jember, Java Est, du 10 au 11 mai 2018. Les 7 pays sont la Turquie, le Pakistan, le Bangladesh, les Philippines et l'Indonésie. Cette activité a été inaugurée par le recteur de l'Université de Jember, M. Muhammad Hassan et le personnel spécial du ministère des Affaires sociales, des Affaires internationales, Sus Eko Zuhri Hernanda, dans la salle de la Faculté de médecine, l'Université de Jember, la province de Java Est. Le recteur Muhammad Hassan a déclaré dans son discours que toutes les parties ont un rôle important dans les objectifs de développement durable, y compris les universités d'État. La participation de l'Université de Jember consiste à former un village indépendant dirigé par des étudiants et devrait aider les villageois à être autonomes avec un potentiel local afin que la pauvreté puisse être réduite. Il espère que cette conférence internationale profitera à chaque pays pour réduire la pauvreté dans le pays. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous. Le titre de l'édition de la mise au point de la semaine d'aujourd'hui est L'Indo-Pacifique a besoin de l'ASEAN. Les auditeurs, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'ASEAN, dont le caractère est unique et central, peut être la voie et la réponse à divers défis dans l'Indo-Pacifique. Le gouvernement indonésien participe activement à offrir le concept qui le soutient pour favoriser la prospérité dans la région Indo-Pacifique. La déclaration a été dite par Retno lors d'un discours clé au 10e jour d'un dialogue mondial intitulé « Trouble mondial, le besoin de nouvelle architecture régionale et d'un nouveau modèle d'affaires à Jakarta, mardi, le 8 mai. Cet événement a été organisé par le Centre d'études stratégiques et internationales et le Conseil des coopérations économiques du Pacifique. Selon Retno, le concept d'Indo-Pacifique contient les conditions et l'effet des changements stratégiques dans la région, en particulier de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Le changement rapide apporte les conséquences de divers défis, favorisant la concurrence, peut-être même l'hostilité et les menaces dans le monde maritime qui sont contraires aux conditions traditionnelles du passé. En tant que zone située dans la région Indo-Pacifique, l'Asie du Sud-Est pourrait être affectée. Madame Retno a déclaré, sans anticipation appropriée, le mauvais effet et que cela pourrait nuire aux réalisations d'ASEAN de 50 ans. C'est un prix élevé si l'ASEAN, qui est avérée capable de construire une région pacifique stable et prospère, est écrasée. Retno Marsudi a ajouté que l'Indonésie espère que l'ASEAN applique le principe d'unité et de centralité. La position de l'ASEAN est unie pour répondre aux différents défis qui existent. Le message est clair, l'unité et la centralité de l'ASEAN sont importantes pour l'Indo-Pacifique. Retno a déclaré qu'avec son unité et sa centralité, l'ASEAN devrait assurer un certain nombre de choses pour l'Indo-Pacifique. Il s'agit de fournir un environnement qui assure la durabilité dans la région en utilisant les moyens appropriés et l'anticipation pour faire face aux défis et en créant de nouveaux centres pour soutenir la croissance économique. Donc, il est obligatoire pour l'ASEAN de maintenir une économie ouverte et équitable. Tandis que l'un des conférenciers, George Lam, qui est le responsable de Cyberport Management d'Hong Kong, a déclaré que le monde a encore besoin d'une variété d'initiatives qui maintiennent ou encouragent les principes du marché libre. Il estime que l'initiative de la ceinture et de la route est un bon exemple d'initiative du gouvernement chinois. En plus d'être une route de distribution pour les biens, elle ouvre aussi la participation pour l'État. Des programmes tels que l'initiative de la ceinture et de la route encouragent également la participation du secteur privé. C'est bien parce que la participation privée encourage l'amélioration de la qualité du produit fabriqué. C'était la mise au point de la semaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. C'est le temps pour parler de l'histoire d'aujourd'hui, le 13 mai. On commence par l'histoire du 13 mai 1969, une émeute raciale à Kuala Lumpur. Il y a eu une émeute raciale entre les Chinois et les Malaises à Kuala Lumpur, en Malaisie. Cette émeute a tué au moins 184 personnes. À cette époque, la Malaisie souffrait de l'inégalité de la richesse entre les Chinois, qui étaient généralement des commerçants contrôlant la majeure partie de l'économie malaisienne, et le plus pauvre de la population malaise. En outre, les Chinois contrôlaient également la plupart des richesses du pays. Ensuite, le 13 mai 1998, une émeute de mai à Jakarta. L'émeute de mai 1998 est une émeute raciale contre les Chinois qui a eu lieu en Indonésie du 13 au 15 mai 1998. Cet incident se déroulait dans la capitale Jakarta et dans plusieurs autres régions. Ce trouble a été précédé par la crise financière asiatique et déclenché par la tragédie de Trisakti dans laquelle 4 étudiants de l'université de Trisakti ont été abattus lors d'une manifestation du 12 mai 1998. Dans cette émeute, il y a de nombreux magasins et entreprises ont été détruites. Cette émeute a pris fin avec la chute du président Suharto et est devenu le début de l'ère de la réforme. La dernière, le 13 mai 2011, le bombardement de Calçada. Le double bombardement a eu lieu le 13 mai 2011 au château de Sapkadar dans le district de Calçada de la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan. 98 personnes ont été tuées et 140 autres ont été blessées lors que des kamikazes ont explosé au centre de formation de la frontière constabulaire. Cette explosion se sont produits lors que les cadets sont entrés dans l'autobus pour le congé de 10 jours après avoir suivi un cours de formation. Tehrik-i-Taliban, Pakistan, a officiellement revendiqué la responsabilité de l'attentat à la bombe et a déclaré que cette attaque était en représailles à la mort de Bin Laden. Cependant, certains responsables locaux doutent que cette attaque ait été menée en représailles à Bin Laden, en affirmant que peut-être ce bombardement aurait été mené par un groupe d'issides de talibans comme la réaction à la dernière attaque de l'armée pakistanaise contre des militants de talibans dans le territoire de Mohammed en Afghanistan. Chers auditeurs fidèles, voilà l'histoire d'aujourd'hui de RRI, le service mondial de la Voix de l'Indonésie, depuis Jakarta.
Indonesiaku. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Tous les auditeurs, toujours avec moi TV dans la rubrique de Mon Indonésie dont le titre est « Le président espère 3 succès des Jeux asiatiques de 2018 ». Chers auditeurs, le président Joko Widodo espère que les Jeux asiatiques de 2018 en Indonésie ne seront pas seulement couronnés de succès de la préparation, mais aussi en termes de mise en œuvre et de réalisation. Dimanche 6 mai, l'adjoint au protocole de presse et de médias du secrétariat présidentiel, Bey Mahmoudine, a déclaré que les Jeux asiatiques de 2018 est la chance d'or et le meilleur moment pour promouvoir l'Indonésie aux yeux du monde. En 2018, l'Indonésie accueillerait la plus haute compétition sportive en Asie qui ouvrira officiellement ses portes le 18 août 2018. En fournissant les 40 sports auxquels des athlètes de 45 pays participeront, il est certain que les regards seront adressés à l'Indonésie pendant l'événement. Ce n'est donc pas exagéré que le président Joko Widodo accorde une attention particulière aux préparatifs des 18e Jeux asiatiques. En fait, il est intervenu directement pour participer à la promotion des Jeux asiatiques par diverses apparences et visites. En marge de ses activités pour rencontrer des athlètes d'entraînement national, à Altaïa sa stable, Limo, d'époque Java de l'Ouest, dimanche, le président a donné des informations par l'interview du bureau de presse, de médias et d'information du secrétariat présidentiel avec Richard Sambera, ancien nageur par de l'Indonésie. Dans sa déclaration, le président a déclaré que tout doit être contrôlé car le grand événement des Jeux asiatiques de 2018 doit être bien préparé. Selon lui, la préparation du site et la préparation des athlètes doivent être vérifiées et contrôlées afin d'atteindre la réalisation attendue. Selon le président, 92% des sites sont prêts. En outre, le préparatif des athlètes sur les sites d'entraînement existants ainsi qu'au pays et à l'étranger. Il espère que l'équipe nationale réussisse non seulement à la préparation, mais aussi à l'exécution et à la réalisation. Le président a déclaré que l'utilisation de la veste des Jeux asiatiques vise à faire tout le monde se souvenir que 18 août 2018, les Jeux asiatiques seront ouverts à Jakarta. Il a dit que toute la communauté, le monde des affaires, puis le gouvernement et le gouvernement local devraient tous soutenir le grand événement parce qu'il implique le grand nom et la nation de l'Indonésie. Il a donné des exemples de ce soutien, comme le magasin offre des réductions lors des Jeux asiatiques, la communauté organise des concours dans les écoles, dans les villages ou dans leurs districts et villes respectifs. Il espère que l'Indonésie obtiendra une bonne performance car aux Jeux asiatiques de 2014, l'Indonésie est classée 17e. L'objectif de l'Indonésie au 18e Jeux asiatiques est le top 10 avec une cible de 16 médailles d'or. En attendant, en ce qui concerne l'état du lieu après les Jeux asiatiques, le président espère que les sites sportifs doivent être bien gérés afin qu'ils soient productifs et puissent être utilisés pour des exercices pour les grands événements à venir. Deuxièmement, en ce qui concerne l'industrie du sport devrait également être allumée. Selon le président Joko Widodo, après les Jeux asiatiques, l'Indonésie doit avoir un plan pour le monde du sport et pour les industries qui soutiennent le sport. Elle doit fournir une tendance à la communauté à exercer activement afin d'assurer la santé de la communauté. Voilà mon Indonésie d'aujourd'hui.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Tous les auditeurs de la Voix de l'Indonésie avec moi Tiwi dans la rubrique du Magazine Culturel. Dans cette édition, je vais vous présenter le lac Tigi de Papouasie. Alors, restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie par www.voinews.id. La charme de la beauté naturelle de la Papouasie est déjà célèbre à l'étranger. Explorer et profiter la beauté de Papouasie est sans égal, parce que là, on va trouver une beauté naturelle renversante. Non seulement la beauté de la côte, les zones montagneuses de la Papouasie a également beaucoup d'attractions touristiques, entre autres est le lac Tigi, qui se trouve juste au pied du montagne d'Eyai. Le lac Tigi est situé dans le district de Digiay et le district de Deyai à 1700 mètres d'altitude. La profondeur de ce lac est jusqu'à 150 mètres. Comme il est dans les eaux terres, donc l'air autour de le lac Tigi est très froid. Le lac Tigi est une très belle attraction naturelle avec l'eau de lac bleu qui est vraiment claire et le paysage magnifique au pied du montagne Deyai. Voilà la petite description de la beauté du lac Tigi qui est géniale. Complètement, au milieu du lac se trouve l'île de Douaumont. Beaucoup de touristes nationaux et étrangers la visitent. Au coucher du soleil, ce lac exotique devient plus beau. Les bateaux de pêche se sont arrêtés, les petits oiseaux qui ont volé bas et ont parfois attrapé l'eau, rendant la vue du lac au soir plus belle. En plus de profiter du paysage, les touristes peuvent également pêcher ou louer un bateau appartenant à la population pour entourer le lac. Si vous voyagez là-bas, il semble incomplet si vous n'avez pas visité le village de la tribu de Mé et la tribu de Moni, deux grandes tribus qui vivent dans les montagnes de Paniai autour du lac Tigi. Là, vous pouvez voir la maison traditionnelle de Papouasie, Honai, et la vie quotidienne de la population. De plus, vous pourrez également voir les attractions artistiques et obtenir les souvenirs typiques de ces deux tribus. Chers auditeurs, dans la région du lac Tigi, il existe diverses installations telles que le poste de gare, les guides touristiques, le chalet, la location de bateaux, la location d'équipements de pêche et les petites écopes. Si vous voulez rester là, vous pouvez louer des maisons situées autour du lac ou camper dans divers endroits de la région. Tandis que si vous voulez obtenir un hébergement complet, vous devez aller à la ville de Narotali, la capitale du district de Paniai, parce qu'il y a des magasins, des marchés, des restaurants, des maisons de culte, ainsi que des hôtels et de différents types. De la ville de Narotali, l'accès au lac Tigi est très facile. Vous pouvez prendre le bus pour traverser des routes qui sont escarpées et sinueuses. Vous pouvez également prendre l'avion de type Cessna qui peut atterrir dans les eaux terres. Mais le coût de l'utilisation d'avion est plus élevé que l'utilisation du bus. Chers auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel sur le lac Tigi de Papouasie. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs fidèles de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, voici la rubrique de l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de déchets de feuilles de tabac en tant que matière principale d'insecticides naturels. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix d'Indonésie, parlons de cours 9200 kHz ou www.voinews.id. L'insecticide est un produit chimique toxique utilisé pour tuer les insectes. Il peut réduire la croissance, le développement, la reproduction, la santé, le système hormonal, le système digestif et l'activité biologique des insectes de sorte qu'ils meurent. L'insecticide comprend un type de pesticide, des produits chimiques pour éradiquer divers types de parasites agricoles. Il existe deux types d'insecticides, organiques et inorganiques. L'insecticide organique contient généralement des éléments de carbone naturel qu'on peut obtenir à partir de déchets de feuilles de tabac, alors que celui inorganique ne contient pas d'éléments de carbone. Un chercheur du Centre d'évaluation des technologies agricoles de Java de l'Est, Herwanto, a déclaré que l'extrait des déchets de feuilles de tabac peut être utilisé comme insecticide végétal pour éradiquer la chenille de l'oignon rouge, qui sont préjudiciables aux agricultures. Et Java de l'Est est l'un des plus grands producteurs de tabac en Indonésie, outre Java Central et Nusa Tenggara de l'Ouest. Alors que les matières principales sous la forme de déchets de tabac est facile à obtenir. Herwanto, qui a mené des recherches au laboratoire de biologie pharmaceutique, la faculté de pharmacie, l'université Gajah Mada, et au laboratoire des ravageurs et de maladies des plantes, centre d'évaluation des technologies agricoles de Java de l'Est, a dit que l'extrait de déchets de feuilles de tabac a une teneur élevée en nicotine. En Indonésie, la recherche est encore limitée et n'a pas été profondément exprimée. Avec la recherche continue, Herwanto espère que la présence de la chenille de l'oignon rouge en tant que principal ravageur de la plante va de plus en plus diminuer. Cette recherche vise également à étendre l'utilisation d'insecticides à base de plantes plus sûres. Parce que jusqu'à présent, les agriculteurs utilisent encore des insecticides chimiques synthétique pour éradiquer les ravageurs. En fait, l'utilisation excessive de produits chimiques synthétiques provoquera des effets néfastes, comme la pollution de l'environnement, la résistance et la destruction d'organismes nocifs. Chers auditeurs, voilà l'Indonésie en couleur aujourd'hui. amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut les amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, toujours avec moi Tiwi dans la dernière rubrique, le magazine Musica. Cette édition va vous présenter les chansons pop de Syahrini. Pour la commencer, je vous présente une chanson sans titre, Kau tak punya hati, ou en français, Tu n'as pas de cœur. Bonne écoute et restez avec nous à www.voinews.id.
Shh.
chers amis, vous venez d'écouter la chanson sans titre Kau Tak Punya Hati par Syahrini. C'est l'une des chansons principales de l'album intitulé Princesse Syahrini, ou en français La Princesse Syahrini. Cette chanson est une création de Syahrini qui raconte de la tristesse d'une personne à cause d'un cœur brisé. Alors, écoutons l'autre chanson de Syahrini dont le titre est Jangan Memilih Aku, qui signifie Ne me choisis pas. Bonne écoute!
Jadi milikku, memang lukaku belum sembuh semua. Juga dukaku belum sirna semua.
Diriku yang pernah terluka.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson de Charini intitulée « Jangan memilih aku » qui signifie « Ne me choisis pas », la chanson qui a été publiée en 2011. Alors, enfin, nous devons terminer notre rencontre. Avant de terminer, je vous donne deux autres chansons chantées par Charini intitulées « Seperti itu » qui signifie « Comme ça » et « Cetar ». Bonne écoute et à la prochaine.
Boom shake shake shaboom. Boom shake shake shaboom.
Sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana
bagai burung dalam sangkar.
Seperti itu. Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang.
Seperti itu maumu, tak mungkin aku bahagia. Seperti itu cintamu, mama papa tolong aku. Hempaskan cinta.
Resiko punya pacar janji.
Boom, shake, shake, shaboom.
Gimana pun banyak yang
boom,
suka.
Boom, shake, shake, shaboom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju cantik cantik
tatui 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 ratatatata.
Sedikit dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana
bagai burung dalam sangkar.
Jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam tak boleh bersolek.
Jangan sampai tambah cantik.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.